Lénarc et la SNCF. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'écrivais un article sur la posture de non-service de la SNCF. Eh bien, voyez-vous, ce matin, sur France Info, bim, une belle interview d'un agent SNCF qui vient confirmer mon constat. Il explique que son objectif, c'est d'atteindre 100% de régularité des trains. Il n'a pas d'objectif d'emmener les clients à bon port. Écoutez bien le discours de Jean-Christophe Durieux de la gare de Lyon.
Rien qu'à la gare de Lyon à Paris, où le centre opérationnel de la SNCF se prépare à une grosse journée, Raphaël Ebenstein. Ils sont en liaison permanente avec leurs collègues au bord des voies et rien ne leur échappe, ou presque, grâce aux caméras vidéosurveillance. Les 51 agents du centre opérationnel escale de la gare de Lyon, qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ont pour principale mission, et ce n'est pas une boutade, que les trains partent bien à l'heure. Sur leurs écrans, des courbes, des statistiques qui s'affichent en temps réel. Et donc une obsession, la ponctualité. Jean-Christophe Durieux, directeur adjoint des TGV pour la gare de Lyon.
C'est pas très joli, mais ça se lit un peu comme ça, avec ici la ponctualité terminus à l'arrivée en gare Paris-Gare de Lyon. Donc on voit que à 0 minute, on a eu 65% des trains à 0 minute à l'heure, à 3 minutes 86%, à 10 minutes 91%.
Toutes les causes de retard sont analysées. L'accent est mis notamment sur la bonne préparation des trains en gare avant le départ.
Il y a tout un travail qui doit être fait sur l'avitaillement, sur le nettoyage, sur la préparation de la rame. Et donc tout ça, on le suit sur chaque jalon, on va dire, de cette préparation du train.
L'espoir est sans doute d'atteindre les 90 à 95% de régularité globale enregistrée le week-end dernier à la gare de Lyon. Raphaël Ebenstein.
Je pose juste une question. À quel moment entend-on une préoccupation pour les voyageurs? Alors, réponse, à aucun moment. La préoccupation est centrée sur les trains qui partent à l'heure, pas sur les clients qui utilisent les trains. Maintenant, je vous explique le raisonnement qui est derrière tout cela. La SNCF, c'est le service public, donc c'est piloté par l'État et notamment le ministère des Transports. Et le ministère des Transports, du moins dans les hautes sphères, c'est rempli de, je vous le demande, c'est rempli d'énarques. Alors, revenons aux fondamentaux. C'est quoi la formation à l'ENA? L'ENA, c'est 2 années de formatage au pilotage des dispositifs publics par la procédure, l'indicateur et le tableau de bord. Donc, les énarques adorent 3 choses. Les procédures, dont on peut quantifier le nombre de mises en œuvre. Les objectifs, chiffrés, les chiffres des procédures ci-dessus. Les tableaux de bord de reporting pour mettre les fameux chiffres. Revenons maintenant à la SNCF. Pour rendre compte de son activité au ministère, les énarques du dit ministère lui donnent des objectifs à atteindre. Et ces objectifs sont forcément chiffrés. Vous avez un exemple d'objectif chiffré dans le reportage de France Info ci-dessus. 95% de trains à l'heure. Donc, notre technicien de la SNCF fait tout pour atteindre ce chiffre. Et si jamais ça merdouille et que son chiffre se dégrade, la machine kafkaïenne de l'administration publique se met en route. Par exemple, imaginons que le chiffre tombe à 60%. Le SI, système d'information, va cracher son chiffre en fin de mois. Le chiffre va remonter la ligne hiérarchique jusqu'au ministère. Là-haut, on n'est pas content. Alors, on tape du poing sur la table, ou plutôt, on passe une soufflante au PDG de la SNCF. Le PDG de la SNCF revient dans sa direction générale, et, à son tour, tape du poing sur la table, ou plutôt, passe une soufflante au DG adjoint. Le DG adjoint revient auprès de ses directeurs, et à son tour, tape du poing sur la table, ou plutôt, passe une soufflante au directeur de la régulation. Le directeur de la régulation revient auprès de ses chefs de service, et à son tour, tape du poing sur la table, ou plutôt, passe une soufflante au chef de service, etc., 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 jusqu'au pauvre régulateur de la gare de Lyon. Et notre régulateur de la gare de Lyon, lui, il n'a plus personne en dessous de lui. Il ne peut donc plus se défausser d'une soufflante sur un subalterne, puisqu'il est au bout de la chaîne. Alors que fait-il? Eh bien, il agit sur les seules marges de manœuvre qu'il a. Par exemple, si c'est lui qui saisit manuellement l'heure d'arrivée du train, ben, il va saisir l'heure en grignotant quelques minutes, juste pour être dans les bonnes valeurs attendues par le tableau de bord. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ou bien, il va faire partir un train qui n'aura pas été nettoyé parce que, bah, plus le temps. Les voyageurs découvriront les restes de paquets de chips sur les sièges, les journaux étalés dans toute la voiture, les couches de bébés dans les WC, les poubelles individuelles pleines à craquer de restes de chez la boulangerie Paul de voyageurs précédents bien crado. Ça va dégrader la satisfaction voyageur, mais c'est pas grave, car ce mois-ci, la soufflante, elle était sur la régularité, pas sur la satisfaction des voyageurs. Mais alors, qu'y a-t-il dans la tête de l'énarque pour arriver à cette situation? Réponse. Il y a un raisonnement d'énarque. Le train transporte les voyageurs, donc si le train est à l'heure, les voyageurs aussi. Et tout le monde est content, c'est QFD, se dit l'énarque. Pas tout à fait, mon cher énarque. Car, vois-tu, dans le cas de mon RER de la SNCF, le régulateur à qui tu as donné la même consigne joue lui aussi sur ses marges de manœuvre quand il se prend une soufflante et que son chiffre n'est pas bon. Je m'explique. Vois-tu, mon cher énarque, mon RER E fait des allers-retours toute la journée entre Villiers-sur-Marne, Plessis-Trévise et Haussmann-Saint-Lazare. Il arrive parfois... tout le temps, qu'il y ait des perturbations sur la ligne. Ces perturbations perturbent la régularité. Donc, mon régulateur voit sur ses écrans, comme dans le reportage de France Info, la courbe descendre à la verticale et se rapprocher de la ligne rouge fatidique, où il va se prendre une bonne soufflante. Donc, quand il regarde le train partir de Val-de-Fontenay pour son terminus à Villiers-sur-Marne, et qu'il constate que celui-ci a déjà 8 à 9 minutes de retard sur son horaire théorique, il prend sa marge de manœuvre pour éviter une soufflante. Il déclare le train terminus à... Nogent-le-Perreux. Analysons maintenant le « ni vu ni connu, je t'embrouille » de mon régulateur. Le train est enregistré terminus Villiers-sur-Marne. Donc, s'il n'arrive jamais à Villiers-sur-Marne, personne ne pourra jamais déclarer le nombre de minutes de retard au terminus. Et paf, la courbe du régulateur remonte. Mieux, comme le train repart direct vers le terminus de l'autre bout, c'est-à-dire Haussmann-Saint-Lazare, et qu'il a amputé la partie de son trajet qui allait retarder son retour, bim, il arrive à l'heure à l'autre terminus. Ni vu ni connu, je t'embrouille. La courbe statistique de mon régulateur se redresse. Et mon cher énarque peut s'enorgueillir d'avoir les bons chiffres de régularité et les belles courbes bien vertes. Maintenant, analysons la même scène, mais du point de vue du voyageur que je suis. Le RER E, terminus Villiers-sur-Marne, est omnibus. Il s'arrête à toutes les gares. Mais il y a également le RER E, terminus, tournant, qui est semi-direct. C'est-à-dire qu'il va plus vite, mais en contrepartie, ne s'arrête pas à toutes les gares. Par exemple, il va direct de Rosa Parks à Val-de-Fontenay, puis direct de Val-de-Fontenay à Villiers-sur-Marne. Donc, quand mon régulateur prend sa marge de manœuvre, pour ne pas se prendre une soufflante et décide que le terminus ne sera plus à Villiers-sur-Marne, mais à Nogent-le-Perreux, il oblige tous les passagers qui souhaitent se rendre à Champigny et Villiers à débarquer sur le quai de l'oubli à Nogent-le-Perreux. Et là, comble de l'horreur et de l'agacement, les voyageurs voient passer, vent du cul dans la plaine, comme on dit en aviation, le semi-direct Val-de-Fontenay-Villiers, qui leur passe sous le nez. Si ce gredin de bougre d'andouille, de pieds nickelés, de saperlipopette illusoire de régulateur avait annoncé sa forfaiture à Val-de-Fontenay, on aurait pu au moins monter dans le semi-direct. Capici? Et accessoirement, mon abonnement Navigo est une forme de contractualisation entre la SNCF et moi. Donc, quand je monte dans un train à Rosa Parks pour la destination Villiers-sur-Marne, c'est pour arriver à destination Villiers-sur-Marne, pas pour être largué à Nogent-le-Perreux juste parce que le RER dans lequel je suis monté est en train de faire chuter l'indice de régularité de l'énarque du ministère. C'est un peu comme si vous alliez chez Arnis vous faire tailler un costume sur mesure, et quand vous venez le récupérer, vous avez la veste et un pantalon de jogging à 2 euros made in Taïwan. Et là, Arnis vous rétorque.
Oui, mais en fait, j'ai pas eu le temps de m'occuper du pantalon. Alors j'ai mis celui-là à la place. Allez, au revoir, tu repasseras demain, ta culotte sera prête.
Et accessoirement, c'est comme cela que les énarques créent la France du Grand Chelem. Tous les indicateurs sont au vert. La croissance, la création d'emplois, le moral des ménages, la consommation, la diminution de la dépense publique, la baisse des taxes et des impôts, etc., etc., et bam, gilet jaune. Pour le dire autrement, comme personne n'a envie de se prendre une soufflante, tous les acteurs qui saisissent des informations dans les ordinateurs mettent en œuvre des trésors d'ingéniosité pour faire en sorte que les ordinateurs ressortent les bonnes valeurs pour les indicateurs. En psychologie du travail, on appelle cela la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Mais au final, ce pilotage par les indicateurs fabrique un décalage entre la réalité représentée par les indicateurs et le réel. Pour le dire autrement, l'énarque se rassure avec des chiffres qui ne reflètent en rien la réalité. Et les agents du service public travaillent pour les indicateurs et non pour les clients du service public.